paroles qu'ils ont besoin d'entendre cette semaine. De même manière qu'il en soit de même, Seigneur, pour moi, que tu puisses aussi me parler et m'instruire tout au long de cette semaine. Donc, merci d'être là et merci de te préoccuper de nous et merci de prendre soin de chacun d'entre nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, je remonte juste un peu pour savoir la dernière personne que j'aurais saluée. D'accord. Alors, je lis pour vous le passage dans Ésaïe au chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et la section de phrase qu'on va étudier cette semaine, « Il m'a envoyé » dans le verset 1. La troisième phrase au complet va dire « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et nous, on va juste s'arrêter sur « Il m'a envoyé ». Pourquoi? Parce que le « Il m'a envoyé » va revenir ou va être sous-entendu dans les prochaines phrases. Donc, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » »« Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. » Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce de l'Éternel. Donc, il m'a envoyé, bien qu'il soit sous-entendu dans les autres phrases, et quand même un terme important. Donc, je trouvais approprié de nous arrêter juste sur ce terme-là tout au long de cette semaine. Et on va le voir sous différentes déclinaisons. Et ça va nous permettre de parler notamment de l'appel de Dieu et de la réponse qu'on doit lui apporter. Il m'a envoyé, le terme « envoyé » pour vous... je m'excuse. Pour vous montrer l'importance de ce terme-là, on se rappelle que le terme « Adonai » qu'on a étudié la semaine dernière, il apparaissait 484 fois. Le terme « Yehovah » autour de 500 fois par là. Le terme « envoyé », qui est le terme pour ceux qui prennent des notes « shalak »,« shalak », donc « s-h-a-l-a-c-h », je répète, « shalak »,« s-h-a-l-a-c-h ». Ce terme-là est trouvé dans l'Ancien Testament, puisque c'est en hébreu, 847 fois. Donc, pratiquement le double de l'utilisation d'Adonai, Seigneur, notamment. Donc, je pense que c'est un terme important et comprendre pour nous, mais comment le Seigneur nous envoie, comment le Seigneur nous interpelle pour nous envoyer. Alors, ce matin, on va essentiellement s'arrêter sur ce que j'appellerais l'émission du mandat. Donc, sur le fait de recevoir un mandat de Dieu. On va parler de l'appel. C'est souvent quelque chose qui est méconnu ou sur lequel on fait certaines erreurs au niveau de la compréhension. J'aimerais que vous ouvriez avec moi, et si vous avez vos Bibles, ça serait très important que vous l'ayez pour bien voir les textes avec moi ce matin. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, notamment dans Romains au chapitre 12. Romains au chapitre 12, du verset 6 au verset 16. Romains chapitre 12, du verset 6 au verset 16. Je lis pour vous. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affection. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez point. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Deux points importants. Dans ce texte, on fait la différence ou la différenciation entre deux thématiques bien différentes. Quand vous regardez du verset 6 jusqu'au verset 8, même jusqu'au verset 8, on nous parle précisément de certaines personnes. On nous dit que celui qui a le don de prophétie le fasse avec l'analogie de la foi. Donc, sa prophétie cadre avec la pensée de la parole de Dieu. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Donc, on est en train de vraiment aller de façon précise sur certains aspects du ministère ou sur certains ministères en particulier. Quand on arrive toutefois à la fin de ce passage qu'on a lu, notamment à partir du verset 11, on nous dit « Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous, persévérez, pourvoyez, exercez, bénissez, réjouissez-vous avec, pleurez avec. » Et là, on rentre dans ce que j'appellerais peut-être, non pas de façon péjorative, mais des généralités. C'est comme si Paul tient à ce qu'il y ait une différence entre la première catégorie qu'il a nommée et la deuxième. La pensée qu'on doit comprendre tout d'abord, c'est que nous sommes tous appelés à servir. Que ce soit clair, nous sommes tous appelés à servir. Et voilà pourquoi Paul va dire, soyez fervents, au verset 11, soyez fervents, servez le Seigneur. Donc, il n'est pas en train de dire que celui qui est appelé au service serve. Il est en train de dire à tous, servez le Seigneur. Il va dire de se réjouir, d'être patient, de persévérer dans la prière. Donc, en partant, la prière aussi est un appel pour tous. Pour voir aux besoins des saints, un appel pour tous. Exercer l'hospitalité, un appel pour tous. Bénissez ceux qui vous persécutent, un appel pour tous. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, un appel encore pour tous. Et pleurer avec ceux qui pleurent, un appel pour tous. Donc, dans l'Église, il existe deux façons de servir. Il y a le service qu'on va appeler le service général, où l'ensemble d'entre nous sommes appelés à nous impliquer. Et de façon particulière, pour certaines personnes, il y a aussi le ministère. Donc, premièrement, comprenons, nous sommes tous appelés à servir. Trop souvent, on veut tomber tout de suite dans la thématique des ministères. Et je pense que les motivations de tomber dans la thématique du ministère, par expérience, par étude personnelle, par faux pas personnel aussi, très souvent, le ministère nous entiche, très souvent, le ministère nous attire pour les mauvaises raisons. Un, parce qu'on devient important. Et on a l'impression que si on n'exerce pas un ministère, on est moins important dans le corps de Christ ou dans l'Église ou dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'importance au niveau de la gradation des gens. C'est sûr que la Bible nous dit d'avoir de la déférence pour ceux qui sont nos conducteurs, pour ceux qui nous conduisent, pour ceux qui nous dirigent. Et on va revenir sur un verset là-dessus tout à l'heure. Donc, oui, effectivement, il faut avoir de la déférence, mais du respect de la serviabilité les uns envers les autres, ça, c'est un appel à chacun d'entre nous. Donc, il y a des choses qu'on fait dans l'Église, Lorsque je suis en train de nettoyer l'église, lorsque je pèlete devant l'église, oui, je le fais à l'occasion et c'est parce que j'aime pelleter, mais de surcroît à ça, je pourrais dire, ah ben c'est le ministère du frère Gilles, donc c'est pas le mien, Dieu m'a appelé à prêcher, Dieu m'a appelé à conduire l'église, donc je ne sers pas en pelletant parce que c'est le ministère de Gilles. Regardez, servir, c'est pas un ministère. Servir, c'est un appel pour nous tous. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Dès que nous venons à la connaissance de Christ, nous sommes rachetés pour devenir serviteurs de Dieu. N'oublions pas que le terme serviteur est aussi un terme qui a pour synonyme esclave. Et un esclave et un serviteur doivent servir. Donc ce n'est pas tout le monde qui est peut-être appelé au ministère, et on va le spécifier dans le verset qu'on vient de lire, mais de surcroît à cela, rappelons-nous que chacun d'entre nous devons servir. Ça veut dire que je peux servir à la porte en tant que portier, je peux servir effectivement à l'école du dimanche en tant que moniteur de l'école du dimanche, je peux servir effectivement dans différentes autres fonctions dans l'église, dans l'administration, dans le nettoyage, dans la traduction, dans l'accueil, dans différentes tâches, et que ça demeure dans le service. Lorsqu'on rentre dans la thématique du ministère, et c'est important qu'on fasse la différenciation, regardez ce qui nous est dit au verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et ça, il le dit tout de suite après ceux qui ont été appelés à la prophétie, qu'il le fasse avec l'analogie de la foi, avec ceux qui ont été appelés à diriger, à exhorter, à enseigner. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ça veut donc dire que tu peux être appelé au ministère, mais tu peux aussi ne pas être appelé au ministère. S'il dit que celui qui a été appelé, ça veut donc dire qu'il y en a qui ne sont pas appelés. Et voilà une différence importante à comprendre. Nous sommes tous appelés à servir, mais tous n'ont pas été appelés au ministère. Donc, ne nous frustrons pas, ceux qui sont appelés au ministère, et en l'occurrence, je l'ai été. C'est pas qu'on est meilleur, c'est pas qu'on est plus grand, c'est pas que on le mérite, c'est que Dieu, dans sa pensée ineffable, il a décidé que pour quelqu'un comme moi, j'étais son candidat pour servir au ministère, dans tel ministère, et en l'occurrence au sein de l'Église des apôtres de Jésus-Christ, où je suis pasteur. Donc, mais ne soyons pas frustrés, c'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui donne selon les dons, les talents, les habiletés, les aptitudes, la personnalité qu'il a suscité en chacun d'entre nous, sachant que ce que Dieu fait avec toi est parfait. Que tu sois ou que tu ne sois pas appelé au ministère, ce que Dieu fait avec toi est parfait. Chose certaine, c'est que tu ne dois pas te rouler les pouces. Chose certaine, c'est que tu ne dois pas être là en train de dire, ben c'est d'autres qui ont été appelés au ministère, donc moi je viens juste à l'église, j'assiste à l'assemblée. Non, dans le corps de Christ, lorsqu'on regarde l'histoire de l'église du Nouveau Testament, on se rend compte que c'était un groupe de serviteurs. Les gens servaient, quelle que soit l'occupation, quel que soit le mandat, quelle que soit la forme de service, les gens servait. Alors, il n'est pas normal que tu appartiennes à une église et que dans cette église, tu ne serves pas. Il n'est pas normal que ton service dans l'église, ce soit simplement d'écouter le prédicateur apporter l'enseignement. Tu te dois de servir. Et servir, c'est une pratique, pratico-pratique. C'est un travail, c'est un ouvrage, dont on voit des fruits. Lorsqu'on sert quelqu'un, ben on lui apporte quelque chose, on lui donne quelque chose, on lui offre quelque chose. Donc lorsque toi tu sers dans l'église, la chose doit aussi être rentable, profitable pour l'ensemble du corps de Christ, pour tes frères et tes sœurs. Donc tous sont appelés au service, mais tous ne sont pas appelés au ministère. Parlons de l'appel du ministère. L'appel du ministère se doit d'être clair. Les gens nous parlent très souvent, mais je crois que j'ai été appelé, mais je suis pas sûr. Ou j'ai le feeling que j'ai été appelé. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est clair. Je reprends. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est clair. C'est clair pour la personne et c'est clair pour ceux qui sont autour. Pensez à Abraham. L'Éternel se présente devant lui et lui dit « Quitte la maison de ton père et va dans le pays où je te mènerai. » Abraham ne sait pas où est ce pays. Il ne connaît pas le détail du périple, mais il est très clair que Dieu lui dit « Quitte, va-t'en, pars. » Selon l'édit que je fais sur ta vie, selon l'énoncé que je prononce sur toi maintenant, prends tes choses et quitte l'endroit où tu es. Abraham, c'est très clair. Moïse, tout aussi clair. Il apparaît dans un buisson ardent qui ne se consume pas et lui dit de retourner en Égypte et d'aller libérer son peuple. Donc encore là, un appel clair. Josué, ce merveilleux passage dans Josué 1, où le Seigneur lui dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. » Donc une parole claire, et c'est toi qui donneras ce pays en héritage à mon peuple. Donc un appel clair. Quand on parle de Gédéon, Dieu se présente devant lui, un vaillant héros. « Va et libère Israël de la main de Madian. » Un appel clair. Lorsqu'on parle de David, il est caché dans le fin fond de la prairie. On le fait venir parce que le prophète Nathan a vu tous les fils d'Isaïe. Il sait qu'il doit oindre un roi, mais il se trouve aucun parmi les 7 fils qui soit approprié. Et il demande à Isaïe, le père de David, est-ce que tu n'as pas un autre fils quelque part? Il dit, ah oui, j'en ai un, mais il est dans les pâturages. Donc on va chercher David, on le ramène à la maison de son père et on va loindre, encore là, un appel clair et précis dans le Nouveau Testament. Pierre, Jean, Jacques, André sont en train de pécher. Dieu passe près d'eux. « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Dieu passe par la suite devant la table d'impôt de Matthieu. Et il dit « Laisse là tes choses, suis-moi. » Matthieu a un appel clair de la part de Dieu. Lorsqu'on parle de Paul sur le chemin de Damas, encore là un appel clair et une confirmation claire à Barnabas qui va venir prier pour lui, pour que ses écailles tombent des yeux. Donc, encore une fois, des appels clairs. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, l'appel de Dieu est une chose claire. Ce n'est pas une question strictement de feeling, mais à un moment donné, il doit y avoir quelque chose de clair, de précis, qui se passe dans la vie d'un individu. Et vous parlerez à la plupart de ceux qui sont aujourd'hui dans le service parce que je dis la plupart parce que je crois que certains sont parfois allés se mettre au ministère sans nécessairement que Dieu ne les ait appelés. Mais ce que Dieu appelle effectivement, il les établit de façon claire et précise. Donc pour toi, si Dieu t'appelle au ministère, n'y va pas avec de « je pense que, mais je ne suis pas sûr que ». Si tu crois que le Seigneur t'appelle au ministère, la chose doit être claire. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas, lorsque les moments difficiles vont arriver, et dans le ministère, il y a malgré tout des moments difficiles, même si tu es dans la volonté de Dieu, tu ne veux pas être en plein cœur de la tempête et te demander « est-ce que je devais vraiment être ici ?» où Dieu ne m'avait pas appelé. Quand je suis passé par tout ce que j'ai eu à passer, que ce soit au décès du pasteur Fontalvo, que ce soit à travers la maladie, que ce soit à travers les périodes où les choses étaient moins faciles, j'étais cramponné sur le fait que je savais depuis des années et des années, c'était clair, c'était précis, ça avait été confirmé par des hommes de Dieu aussi, que la chose que je faisais, que le ministère était vraiment un appel de Dieu pour ma vie. Voilà pourquoi j'ai pas eu de frayeur par rapport où mais j'ai eu des craintes, mais j'ai pas eu la pensée d'abandonner, de laisser tomber. Pourquoi? Parce que je sais que je suis en train de faire ce pourquoi j'ai été créé et j'ai été appelé. Il est donc important, si tu penses que Dieu t'a appelé, que la chose soit claire et précise. Ne t'avance pas sur une présomption que peut-être éventuellement Dieu pourrait t'avoir effectivement parlé. Ça doit être clair, net et précis. Ça ne peut pas être avec des doutes. Parce que le jour où la tempête va arriver, tu vas abandonner et tu vas laisser tomber. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, les appels étaient clairs et précis. Lorsque Paul va parler de Timothée, il va dire aussi que les dons lui ont été donnés et ont été confirmés dans l'Église. Lorsque Paul et Silas vont être envoyés pour le ministère, la chose va être aussi clarifiée précisément dans l'Église. Donc, il est important pour toi, si tu aspires au ministère, d'avoir cette certitude claire, précise, indéniable que Dieu t'a effectivement appelé. Troisième point important. Donc, on a vu, un, que tous doivent servir, mais que tous ne sont pas appelés au ministère. Deuxièmement, on a parlé de la clarté et de la limpidité par rapport à l'appel de Dieu. Je vous dirais aussi, et c'est juste un petit aparté, l'appel est une chose individuelle. Un exemple très clair. Pierre a été appelé au ministère. Donc, Pierre avait un ministère. Mais on nous dit que Pierre était marié puisqu'il avait une belle-mère. Toutefois, on ne parle jamais de son épouse. Donc, ce n'est pas parce que tu es marié à quelqu'un qui a un ministère que toi, tu as nécessairement un ministère. Si effectivement les deux ont été appelés au ministère, alors les deux pratiquent le ministère. Je dis ça pourquoi? Regardez un exemple. Dans le cas de mon épouse et moi, mon épouse sert. Mon épouse a des dons aussi, que je n'ai pas du tout. Moi, j'essaie de gratouiller ma guitare et de jouer quelque peu ma guitare, mais elle, elle est capable de conduire effectivement un peuple dans la louange. Et vous avez été plusieurs régulièrement à confirmer effectivement qu'elle a un don à ce niveau-là qui vient de Dieu. Moi, je ne l'ai pas ce don-là. Mais moi, j'ai été appelé à être pasteur, alors que mon épouse n'a pas été appelée à être pasteur. Ce n'est pas parce que tu es marié à un pasteur que tu as un don de pastorat, que tu as un ministère de pastorat. Tu assistes et mon épouse m'assiste dans l'œuvre de Dieu autant qu'elle peut. Mais le pasteur à la maison, c'est moi. Le pasteur dans le couple, c'est moi. Le pasteur à l'église, ce n'est pas mon épouse, c'est moi. Et trop souvent, on fait cette erreur et on impose donc à la personne qui est à côté de nous ou aux enfants qui sont à côté de nous un poids qui n'est pas nécessaire. Pendant des années, j'ai refusé l'appel de Dieu. J'ai fui l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que je sentais la pression que j'avais en tant qu'enfant de pasteur. Donc, mon père était pasteur, mais moi, je n'étais pas le pasteur. En tout cas, je ne l'étais pas à cette époque-là. Mais on attendait de moi que je sois un mini-pasteur, j'y ai commun, parce que j'étais le fils de mon père. Donc, celui qui était appelé, c'était mon père, pas moi. C'est sûr que par ma conduite, par mon travail, par les dons que Dieu pouvait mettre sur moi, je pouvais appuyer ou non, soutenir ou non le ministère de mon père, mais je n'avais pas ce ministère-là. Alors, c'est donc important de comprendre dans un couple comme dans celui de moi et de mon épouse. Moi, j'ai le ministère pastoral, j'ai été appelé au ministère, mais mon épouse, elle est mariée avec quelqu'un qui a été appelé au ministère. Et ça ne veut pas dire parce que moi, je suis appelé au ministère, qu'elle, par conséquent, elle est ministre. Ça doit être compris par chacun d'entre nous pour ne pas imposer à des épouses, pour ne pas imposer à des enfants un poids qui soit trop lourd. Donc, revenons maintenant à nos textes. On a vu donc, tous doivent servir, toutefois tous ne sont pas appelés au ministère. On a vu que l'appel de Dieu doit être clair, doit être précis. L'appel de Dieu se confirme aussi dans l'Église. Tournons maintenant dans Actes au chapitre 13. Actes chapitre 13 dans l'Église d'Antioche. Acte 13 du verset 1 à 3, voici ce qui se passe. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius qui venait de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, Saul, Paul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Donc, dans l'Église, on voit qu'il y avait des docteurs et des prophètes. Et Dieu va dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Comment Dieu l'a-t-il dit? Est-ce que ça a été une prophétie qui est sortie un jour de jeûne? Est-ce que ça a été de façon individuelle que Dieu a parlé à chacun de ces serviteurs-là qui sont nommés? Chose certaine, c'est qu'à un moment donné, tout le monde sait que Dieu appelle Paul et Barnabas à œuvrer à l'extérieur de l'église d'Antioche. Donc, à partir dans le ministère ou dans l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église va se mettre à jeûner. Et après avoir jeûné et prié, c'est à ce moment-là qu'ils vont imposer les mains sur Paul et Barnabas et qu'ils vont les laisser aller. Ça nous donne trois étapes importantes, trois ou quatre étapes. Dieu va parler. Et avant de n'agir de façon impromptue, intempestive, ils vont prendre le temps malgré tout de jeûner et de prier. Parce qu'ils étaient déjà dans une atmosphère de prière et de jeûne et de recherche de la face de Dieu, Dieu a parlé et la parole qu'ils ont reçue, ils sont allés l'étudier, sont allés prier, sont allés la faire mûrir à travers le jeûne et la prière. Lorsqu'il y a un appel, il y a effectivement un temps d'attente, un temps d'attente pour observer, pour que les anciens de l'Église puissent effectivement attester la véracité de cette parole qui a été donnée. Ce n'est pas tout ce qui est une prophétie ou tout ce qu'on proclame être une prophétie qui vient nécessairement de Dieu. Dans ce cas-ci, ils ont jeûné et puis ils ont confirmé la chose. Donc, lorsque tu commences à servir c'est effectivement dans Actes au chapitre 13 du verset 1 à 3. Donc, lorsque tu commences à servir, il est normal avant qu'on ne déclare effectivement que sur ta vie, il y a un appel et il y a un ministère particulier, il est normal que les gens prennent du temps pour observer, pour prier, puis pour te relâcher. Paul est passé par là. Même si Paul avait eu la conversion peut-être la plus glorieuse du Nouveau Testament, pensez-y un peu. Jésus qui est ressuscité, qui est parti au ciel, lui apparaît et lui dit « C'est moi que tu es en train de persécuter. C'est moi que tu es en train à qui tu es en train de t'attaquer. » La conversion de Paul, elle est magistrale. Je veux dire, c'est un persécuteur de l'Église. C'est quelqu'un qui a été mandaté par les juristes juifs et judaïques pour aller arrêter les chrétiens, pour les mettre à mort. C'est lui qui a attesté la mort d'Étienne, le premier martyr de l'Église primitive. Et ce tyran, ce bourreau, se convertit à Christ de façon miraculeuse. Donc les gens auraient pu dire, hey, cette transformation est tellement merveilleuse, et puis c'est un érudit, il a le verbe, il a la connaissance, il a bien étudié, il connaît les textes de l'Ancien Testament, on pourrait le lancer comme ça. Non, il va attendre, et les gens vont recevoir une parole qu'ils vont par la suite étudier, méditer dans la prière et dans le jeûne, et par la suite, ils vont imposer les mains pour laisser partir Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Donc, il est normal que l'Église t'observe et le ministère se doit d'être confirmé par l'Église. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on parle d'une ordination. Une ordination, comme vous avez vu à certaines occasions, dans mon cas, avec deux autres ouvriers à l'époque, où on a prié pour moi et on a attesté un ministère dans ma vie. J'ai fait la même chose avec le pasteur Hannibal, j'ai fait la même chose avec le pasteur Sergio, avec le pasteur André, où on a prié pour eux, non pas pour conférer un ministère, mais pour attester que l'Église, ensemble, nous avons vu les fruits de ce ministère et nous attestons effectivement que la main de Dieu est placée sur ces hommes et que Dieu les a appelés au ministère. Donc, il est bien d'avoir ce temps d'observation et que l'Église goûte vos fruits, que l'Église confirme vos fruits avant de vous relâcher. Comprenons une chose, le ministère est une grâce qui vient de Dieu. Trop souvent, voilà, maintenant je suis appelé au ministère et puis j'ai la grosse tête. On ne peut plus rien me dire, on ne peut plus me contredire, on ne peut plus me regarder. Paul prêchait et l'église de Bérée prenait ses paroles, allait l'étudier pour voir si ce qu'il disait était vrai ou faux. Donc on était en train de remettre en question ce que Paul enseignait. Et Paul dit que c'était une bonne chose. Lorsque Paul va lui-même parler de son ministère, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 6, « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. » J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Il continue au verset 7, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. Le ministère n'est pas donné au mérite. Le ministère n'est pas donné en conséquence des années d'affliction que tu as passées et maintenant Dieu n'a d'autre choix que de t'utiliser. Le ministère est une grâce. L'appel de Dieu est une grâce. Et lorsque tu commences à servir, tu dois déjà avoir dans ta pensée que c'est une grâce de servir Dieu au niveau du ministère. Tout ce que tu fais pour Dieu est une grâce. Le ministère qui t'est accordé est aussi une grâce. Ne prenons pas cette fameuse tangente et triste tangente que certains ont pris de penser que Dieu leur devait un ministère. Dieu se devait de les utiliser. L'Église se devait de confirmer. L'Église se devait d'attester un ministère. Tout ministère vient de la grâce de Dieu. Dernier point important, la page suivante, Éphésiens chapitre 4, du verset 8 au verset 11. Éphésiens chapitre 4, du verset 8 au verset 12 en fait. Le verset 8 nous dit, « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Rappelez-vous, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie s'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et là, la partie importante. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il a donné, dans le verset 8, il a fait des dons aux hommes. Et lorsqu'on parle des dons aux hommes ici, on ne parle pas des dons genre prophétie, dons de miracles, dons de paroles de connaissance, de paroles de sagesse. Non, non, non. Les dons dont on parle ici, ce sont ces mêmes dons qu'il nous donne par la suite. Et il a donné les uns comme apôtres. Il n'a pas donné à quelqu'un le don d'apôtre. Il a pris cette personne et il l'a donné comme apôtre. Ça veut donc dire que celui qui aspire au ministère aspire en fait à la perte de sa propre vie. Je m'explique. Lorsque tu entres dans le ministère, ta vie ne t'appartient plus, mais ta vie appartient à Christ et à l'Église. Alors si tu veux encore avoir un semblant de vie privée, si pour toi c'est très important, si pour toi le don de toi-même envers les autres, c'est difficile, c'est demandant, c'est exigeant, voire ça va contre ta nature, tu as des questions à te poser, à savoir, es-tu effectivement appelé oui ou non au ministère? Le ministère, c'est que ta vie, Dieu la prend et la donne à l'Église. Ça veut dire que tu appartiens à Christ et tu appartiens à l'Église. Tu ne t'appartiens plus à toi pour toi. C'est plus ta femme qui est ta propriétaire, c'est plus ton mari qui est ton propriétaire, ce ne sont plus tes enfants qui sont tes propriétaires. L'Église est propriétaire de toi. Et ça, c'est une notion qu'on oublie régulièrement. Et les gens se précipitent dans le ministère sans avoir compris le coût du ministère. Le coût du ministère, c'est que ta vie finit. Ta vie ne t'appartient plus. Et je crois effectivement que c'est la pensée que l'auteur aux Hébreux va nous donner. Je crois que c'est dans le dernier chapitre d'Hébreux que je le retrouve pour vous. Au verset 7, Hébreux 13, le verset 7. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. » La fin de leur vie. Ça parle de deux choses. Ça parle de comment ils ont conclu leur vie en servant Dieu. Leur vie venait de prendre fin en servant Dieu. Combien a pris de temps la fin de cette vie? La Bible ne nous le dit pas. Pour certains, dans mon cas, je sers le Seigneur. J'ai été confirmé à l'Église. J'ai été ordonné en 98. Donc, depuis cette année, je servais Dieu avant. On était en observation. On regardait les fruits qui allaient découler de moi. Et à un moment donné, le pasteur Fontalvo, avec l'équipe pastorale, a procédé à, effectivement, la confirmation publique, l'ordination, en disant, Florent, effectivement, un ministère sur sa vie. J'ai fait de même il y a quelques années avec le pasteur André et avec le pasteur Sergio. Mais ça veut dire que notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient à Christ et à l'Église. Et voilà pourquoi il est important. Je sais que actuellement je pourrais être en train de prêcher pour ma propre paroisse, mais il faut bien qu'il y ait un pasteur qui vous enseigne ces choses-là. Alors je le partage avec vous. Il est important que vous priez pour vos leaders. Il est important que vous compreniez quel est le coût de cet appel, quel est le coût de cette grâce qui est donnée par Dieu. Et si pour vous c'est trop demandant, mais ça se pourrait bien que ça soit trop demandant, tout simplement parce que l'appel n'a pas été lancé sur votre vie. Si vous aspirez au ministère, comprenez une chose, vous n'avez plus de vie. Acceptez que cette vie-là ne vous appartient plus. C'est important qu'on comprenne ça, parce qu'il y a trop de gens qui se lancent à l'improviste dans le ministère sans comprendre cette notion de fin de vie. Ma vie ne m'appartient plus parce que j'ai été pris et j'ai été donné à l'Église. J'appartiens maintenant à l'Église. Si tu n'es pas prêt à cela, ça veut probablement dire que Dieu ne t'a pas appelé. J'espère que c'était clair pour vous ce matin. J'espère que vous comprenez combien c'est important de prier pour vos leaders. Je suis conscient combien vous me témoignez votre affection et comment vous priez pour moi. C'est ce qui me tient jour après jour et je suis pleinement reconnaissant de cela. Peut-être un dernier point que vous me permettrez de rajouter. Tout à l'heure, on a parlé de l'église d'Antioche. L'église d'Antioche était l'église maison de Paul. À chaque fois qu'il est parti faire un voyage, il retournait toujours vers Antioche. C'était là où il avait établi son habitat entre chacun des voyages. Mais savez-vous que entre la conversion de Paul et le moment où il est dit « Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », savez-vous combien de temps il s'écoule entre l'un et l'autre? 14 ans. 14 ans dans lesquels Paul, on ne le voit pas. 14 ans où il est en train de servir comme n'importe qui doit servir dans l'Église. 14 ans où il est en train d'être formé. 14 ans où il est en train d'être préparé. 14 ans où Dieu le modèle pour l'œuvre à laquelle il est appelé. Et quand ce temps-là parfait arrive, Paul ayant été formé adéquatement dans l'église d'Antioche, ben Paul va sortir. Donc il y a un temps de préparation. Et chacun d'entre nous, on doit avoir une attitude participative à cette préparation. Si Dieu t'appelle, tu as aussi à être préparé. Alors, je m'arrête là ce matin. C'est une thématique qui m'interpelle énormément. C'est une thématique que j'aime énormément partager parce que je crois effectivement qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se font là-dessus. Donc, j'espère que ça vous a béni. On va aller un peu plus loin tout au long de cette semaine sur l'appel, sur le ministère, sur le fait de servir Dieu. Donc, on vous invite à être là tout au long de la semaine pour voir comment Dieu nous guide dans tout cela. Seigneur, merci d'avoir été présent. Merci de nous avoir parlé. Merci, Seigneur, de nous enseigner. On fait trop souvent de faux pas. Alors que ta parole est claire, alors que ta parole veut nous instruire, on prend parfois nos désirs, Seigneur, pour des réalités. On prend parfois, Seigneur, nos aspirations personnelles comme parole d'évangile, alors que nous devrions retourner à la véracité de ta parole. Lorsque tu appelles, les choses sont claires et ton Église confirme effectivement la chose. Merci Seigneur pour l'Église dans laquelle tu m'as établi et auprès de laquelle je sers. Et merci Seigneur pour le soutien que chacun de mes frères et mes sœurs sont pour mon propre ministère. Je prie Seigneur que ce même soutien soit accordé dans chacune des églises que compte le corps de Christ, afin que tout pasteur puisse compter eux aussi sur une Église aussi fervente dans le soutien, dans la prière, dans l'encouragement de leurs ministres, de leurs ouvriers, comme moi-même j'en bénéficie. J'appelle, Seigneur, ta bénédiction sur chacun de ces ouvriers, sur chacun de ces pasteurs. J'appelle ta bénédiction sur chacune de ces congrégations. Et je demande, Seigneur, que tu élèves encore, Seigneur, une génération d'ouvriers, une génération de ministres, et que tu accordes à nous tous, pasteurs, cette grâce de préparer cette nouvelle génération, cette prochaine génération qui prendra le relais après nous. Afin, Seigneur, que même si tu venais nous chercher, même si la mort, Seigneur, venait nous prendre et nous mener vers l'éternité, qu'il y ait, Seigneur, des hommes, des femmes qui puissent prendre le relais en étant des serviteurs qui ont été effectivement appelés et qui s'attachent au ministère auquel ils ont été appelés. Permets-nous de servir tous et chacun dans l'Église, parce que c'est la responsabilité de tout serviteur, et pour ceux qui ont été appelés au ministère, qu'ils puissent effectivement s'attacher à leur ministère. Nous t'avons prié en toutes choses pour ta seule et unique gloire, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, laissez-moi un peu saluer quelques personnes qui se sont jointes, si ça ne monte pas trop haut. On monte. Vous êtes nombreux ce matin encore. Donc, bonjour à la sœur Nora. Bonjour à Soyla, à Victor. Bonjour à Tatiana, bonjour au frère Frédéric et à son épouse qui sont de retour en Côte d'Ivoire, donc ils nous écoutent depuis Abidjan. Shalom à vous, frère Frédéric, et bien le bonjour à la petite famille. Bonjour à la sœur Sylvia Lyons. Bonjour à Vitar et à Javel. Bonjour à Babette. On continue à prier pour Andreas, son époux. Bonjour à Diana et à Juan Alberto. Bonjour à qui? Bonjour à Myriam. Bonjour à Jude et à Caridad. Bonjour à Rosie. Bonjour à Argelia. Bonjour à Nancy. Bonjour à Lucie. Bonjour à Nias Queen. Bonjour à Winnie. Bonjour à Martha Lucia. Bonjour à Tina. Bonjour à Amalia. Bonjour à ma tante Claudie, à mon oncle Jean. Qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre? Je pense que c'est tout pour ce matin. Bonjour à Eric. Bonjour à Diane. Voilà. Donc c'était tout pour ce matin. Je vous lance le défi d'être là demain matin pour la suite des choses. On se rappelle aussi, puisqu'on a parlé du livre des Actes, de la conversion de Paul, on vous rappelle que ce soir, il y a le cours notamment sur le livre des Actes, l'Église primitive avec le pasteur André, un cours enrichissant. Donc on vous invite à être là si vous le pouvez à 19h ce soir, heure de Montréal, pour ce cours avec le pasteur André. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve ce soir avec le pasteur André ou demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Bonne journée à tous et désolé d'avoir été un peu plus long ce matin. Que Dieu vous bénisse.